Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h45, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Le voici. Il arrive en gare dans quelques minutes. À la une de Nice ce matin, c'est le retour du train de nuit Paris-Nice après plus de bientôt 4 ans d'absence.
Oui, c'est ça. Paris-Nice ressuscité, c'est le titre du quotidien niçois. Rien que pour cette année, l'État va investir plus de 6 milliards d'euros en faveur de son réseau ferré. C'est le double de ce qui se faisait en moyenne depuis plus de 4 ans. Afin de promouvoir cet engagement, on en parlait avec Éric Revel. Vous le rappeliez, Patrick, effectivement, Jean Castex, ça a été du voyage cette nuit sur le Paris-Nice. Il est attendu à 9h11 précise, s'il n'y a pas de retard en gare de Nice, après avoir joué les chefs de bord. C'était hier soir pour la SNCF.
Oui, du côté de Sud-Ouest, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fait la une.
Avec ce titre sous forme de jeu de mots, la ruée vers l'ordre. Sud-Ouest qui revient sur la présence du ministre de l'Intérieur à la manifestation des syndicats de police avant-hier. Un fait inédit. Une fois de plus, nous dit Sud-Ouest, la sécurité s'invite dans la pré-campagne présidentielle. Le débat qui se cristallise autour de la justice, accusée d'être trop laxiste. Un débat dont s'empare la droite, mais aussi la gauche.
Oui, c'est ça. Et donc, parmi les autres sujets, il y a le Covid aussi, qui est à la une du Parisien aujourd'hui en France, qui indique alors que les jeunes se ruent sur les vaccins.
Oui, effectivement, puisque le Premier ministre, en tout cas, qui n'était pas simplement dans le train finalement hier, puisqu'il a également annoncé que tout le monde pourrait se faire vacciner dès le 31 mai, quel que soit l'âge. Une aubaine, donc, pour les moins de 40 ans qui se ruent, effectivement, sur les créneaux disponibles, car, comme l'indique le Parisien, déjà près d'un tiers des primo-vaccinés ont moins de 40 ans, quittent souvent à passer des heures à scruter les rendez-vous disponibles sur Internet, puisque pour le moment, on le rappelle, seuls les créneaux disponibles la veille pour le lendemain sont accessibles aux plus jeunes. Et puis alors, au-delà des vaccins, la santé par le sport, ça c'est le choix de une de la montagne. Depuis 2007, l'ASM Omnisport, club phare du Puy-de-Dôme, a décidé de lutter contre la sédentarité, ce nouveau fléau de la société qui cause de nombreuses maladies chroniques, le diabète, le cancer, l'hypertension. Ce grand club clermontois nous explique que la montagne a récemment obtenu la reconnaissance Maison Sport Santé de la part du gouvernement pour ses différents programmes de promotion de l'activité physique. Une activité physique d'autant plus importante et cruciale en cette période que l'on vit en ce moment de crise sanitaire, notamment de confinement répété.
Oui, non, mais ça c'est vrai. Et puis il y a quand même aussi des oursons à la une de la République des Pyrénées.
Oui, trois oursons qui sont nés dans le Béarn. La maman de cette portée, c'est l'ours slovène Sorita, lâchée en osso en octobre 2018. Elle a été filmée avec ses trois oursons en Béarn, c'est du jamais vu depuis 50 ans dans la région. Ça date donc et ça fait la une de pas mal de journaux du côté des Pyrénées ce matin.
Oui, merci à vous. On continue notre tour de France de la presse et des régions. On s'arrête du côté, évidemment, de Midi Libre ce matin avec
Jean-Michel Servan.
Jean-Michel Servan qui est avec
chef
nous.
Bonjour.
Oui, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Patrick.
Oui, alors Jean-Michel, on va parler dans un instant de votre sujet de une sur le manque d'emploi de saisonniers, parce que c'est l'un de nos sujets du jour là, qu'on va détailler dans un instant. Mais il y a aussi quand même des événements qui sont un petit peu plus festifs. Et ce soir, c'est la première Coupe d'Europe aussi, le Challenge Cup avec Montpellier.
Absolument. Ce soir, c'est le cœur des supporters de Montpellier Hero Rugby Club. Il va vibrer à partir de 21h, vous l'avez dit, à Twickenham, dans le temple du rugby, puisque leur équipe qui a vécu une saison compliquée, difficile, qui va finir en milieu de tableau, qui a failli descendre, elle s'est accrochée, elle a disputé jusqu'au bout ce challenge européen. Et elle jouera contre les Anglais des Tigres de Leicester. C'est une belle récompense pour l'équipe de Philippe Saint-André, qui a été handicapée tout au long de la saison. Alors pas que par le Covid, il y a eu de nombreuses sélections en équipe de France. Les cinq internationaux de Montpellier seront sur le terrain ce soir, donc on peut y croire.
Et qu'est-ce qui est prévu du côté de Montpellier pour les supporters? Est-ce que comme à Toulouse, ça va fermer très tôt, Jean-Luc Moudin qui a pris cette décision avec le préfet, que les bars soient fermés pour ne pas qu'il y ait demain soir, parce que demain il y a l'autre finale, Stade Toulousain,
La
Rochelle, oui bien sûr. Ouais. Et du côté de Montpellier alors?
Non, pour Montpellier, a priori, à ma connaissance, il n'y aura pas d'écran géant, il n'y aura rien du tout, puisque effectivement, il y a un couvre-feu à 21h. Donc, malheureusement, c'est l'heure à laquelle le match va commencer. Donc, tout le monde le regardera devant sa télé, mais à la maison.
Oui, c'est ça. Et puis, l'autre sujet du jour à la une de Midi Libre, c'est le manque d'emplois de saisonniers, c'est ça?
Oui, absolument. Alors ça, c'est un effet de la crise sanitaire auquel on ne s'attendait pas vraiment en Occitanie, puisque les professionnels de nombreux secteurs, hein, comme l'hôtellerie, les bars-restaurants, manquent cruellement de main-d'œuvre pour l'été. Le déficit est tel que les chambres de commerce de l'Hérault et du Gard tirent la sonnette d'alarme. Il faut savoir que ça représente à peu près pour le mois de juillet et le mois d'août sur ces deux départements près de 50 000 emplois et il en manquerait au moins les deux tiers. Alors les raisons principales de ce déficit, bah, il est simple, hein, beaucoup d'emplois saisonniers qui travaillaient dans les bars, notamment sur les plages l'année dernière, bah, se sont reconvertis parce qu'ils ont cru que cette nouvelle saison allait être confinée. Donc ils ont fait une réorientation professionnelle et donc tous les serveurs et toutes les personnes qui travaillaient dans l'hôtellerie notamment sont absents cette année. Mais le secteur le plus touché, c'est l'agriculture. Là, c'est lié au fait que la fermeture des frontières, notamment avec l'Espagne et l'Italie, et les PCR qui ont été demandés pour rentrer sur le sol français, ont limité la main-d'œuvre, notamment étrangère, qui arrive en général d'Afrique du Nord, d'Espagne, voire maintenant d'Amérique du Sud. Et là, le manque dans l'agriculture est énorme. Pôle emploi estime qu'il manque entre 15 et 20 000 emplois saisonniers sont à pourvoir dans le Languedoc. Et il faut aller très vite puisque les récoltes ont commencé. On est en pleine période de la fraise, de la cerise. Et il y aura bientôt les fruits et les melons à récolter. Donc, c'est un peu une course contre la montre que les entrepreneurs, que les exploitants.
Mais alors, comment font-ils pour essayer de recruter? Ça doit être extrêmement compliqué, quoi.
Ouais. Pôle emploi qui se tourne beaucoup vers les étudiants et qui a lancé une grande campagne pour recruter une main-d'œuvre étudiante. Mais les étudiants, ils ont cette année la tête à faire la fête pas vraiment à aller travailler dans les champs.
Non, mais c'est hautement problématique, hein, bien sûr. Alors ça, c'est dans la région de Montpellier, mais on va en parler dans la région PACA dans un instant. Oui. Merci en tout cas, Jean-Michel Servan, rédacteur en chef adjoint de Midi Libre, hein, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.
Et justement, on continue ce petit déjeuner politique, puisque ce petit déjeuner de l'actu, pardon, parce que 8000 emplois sont à pourvoir dès maintenant en région PACA dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et Bernard Marty est avec nous, restaurateur et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et des restaurants des Bouches-du-Rhône. Bienvenue.
Oui, des Bouches-du-Rhône et de PACA.
Et de PACA, ouais, oui, bien sûr.
Je l'ai dit,
PACA.
PACA.
Alors, Bernard Marty, comme on le disait à l'instant avec Jean-Michel Servan, alors, qui parlait de ses emplois saisonniers dans la restauration aussi, il parlait en fait de l'agriculture, des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus alors que la saison démarre. Comment allez-vous faire?
Écoutez, on va essayer de se débrouiller, on espère. D'ailleurs, hier, à Marseille, avec la métropole, ex-Marseille, nous organisions, l'UBI, le Pôle emploi et la métropole, un job dating pour créer les conditions d'avoir des CV, de saisonniers. Mais il était très difficile de s'organiser, puisque nous avons connu les dates d'ouverture qu'il y a très peu de temps, que les jauges concernant les terrasses sont arrivées une semaine avant l'ouverture. C'est très dur de s'organiser quand on est un entrepreneur dans ce pays. Difficulté supplémentaire concernant les saisonniers, c'est que la plupart du temps, il faut les loger. Et en ignorant la manière dont allait se passer la saison, tout le monde a été réticent. Additionné à ça, le dispositif de chômage partiel ne concernait que les saisonniers qui étaient présents l'an dernier. On sait qu'en règle générale, d'une année sur l'autre, les saisonniers changent de lieu, changent d'entreprise, et ainsi de suite. Donc, les entrepreneurs étaient en grande difficulté, ce qui a conduit, quelque part, les salariés de faire d'autres choix, et on peut comprendre. Alors, ça va être très, 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 très difficile.
Oui, c'est ça, parce que, vous lancez ces opérations, mais s'ils ne répondent pas à l'appel, comment allez-vous faire, quoi?
Mais écoutez, hier, pour la rencontre que nous avions, il y a eu des candidats. Alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils viennent plutôt de notre milieu que celui de la restauration. En gros, j'ai presque l'impression que ceux de la restauration ont envie de faire autre chose, et puis ceux qui faisaient autre chose ont envie de faire de la restauration.
Oui, mais Bernard Marty, est-ce qu'il n'y a pas, de la part de certains peut-être qui étaient dans la restauration, un maintien de chômage partiel qui fait que finalement, ils n'ont peut-être pas intérêt à se signaler? Pas du tout.
Non,
mais je pose la question, c'est pour ça.
Non, bien sûr que non, puisque d'abord, on ne sait pas quelles seront les limites du chômage partiel. D'abord, on ne sait pas quand ça durera. Ouais. Et d'autre part, on ne veut pas passer sa vie au chômage partiel, ça, c'est pas possible. Ce qu'il y a dessus en guerre, c'est que on a perdu un peu l'habitude de travailler. On vient plutôt en reculons, et c'est vrai que la restauration, c'est un métier assez difficile, et que oui. Si effectivement on a eu le temps pendant ces 7-8 mois de faire d'autres choix, on les a fait. C'est
oui.
Tout
simplement et, ça. Oui, et il faut proposer aussi du coup des salaires attractifs, quoi.
Oui, mais je pense que c'est même pas un problème de salaire.
C'est pas un problème de salaire.
Ouais. Non, c'est pas, je pense pas que ce soit un problème de salaire. C'est, je pense que tout le monde a eu tellement peur d'une saison qui pourrait ne pas avoir lieu que ben, tout le monde s'est orienté vers autre chose.
Bon, alors pour ceux qui sont intéressés, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qui nous écoutent?
Mais écoutez, il y a le Pôle emploi qui est
qu'ils aillent vers Pôle emploi, quoi.
Mm-hmm. Ouais. Ah oui, oui, qu'ils aillent vers Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui est notre fournisseur de CV et qui fait en sorte que nous recrutions. Et j'appelle à tous ceux qui font le choix de la restauration, de l'hôtellerie, des brasseries, des hôtels, de nous répondre et de venir nombreux parce qu'il va y avoir un grand besoin.
Oui, complètement. Merci beaucoup, Richard Marty, Bernard Marty. Bernard, décidément, président de la branche restauration de PACA, d'avoir été avec nous.
Et la suite.
Oui, Didier, au 0826 300 300, les auditeurs qui nous appellent et qui veulent réagir sur l'actualité. C'est Didier, de Martigues. Bah, on reste dans la région, justement. Oui. Bonjour, Didier.
Oui, bonjour à l'équipe, bonjour à tous les auditeurs.
Bon, Didier, qu'est-ce qui vous fait réagir dans l'actualité, vous, ce matin?
Ben moi, j'aurais aimé parler du déconfinement.
Oui, oui.
Et donc, par rapport à est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport aux excès qu'il peut y avoir suite à cette liberté qui va nous être encore enfin attribuée.
Oui, oui. Oui, parce qu'on a une question un peu provoque. Hein. Est-ce que vous redoutez un relâchement, quoi, hein. Mais c'est une question provoque, mais ça...
Quelque part, c'est une question où oui et non, dans le sens où, évidemment, qu'il y aura... Moi, je pense qu'il y aura des débordements, hein, ça fait partie de... Voilà, c'est le français qui... qui est comme ça, hein. Une fois qu'on a nos libertés, on est festif, on est joyeux, on est jovial, surtout avec ce que nous avons traversé. Mais de notre côté, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Mais le problème, mais c'est pas un souci parce que bon, maintenant nous avons des vaccins, nous savons à quoi nous attendre, j'ai envie de vous dire.
Oui.
Mais après, moi, ce que j'avais envie de développer aussi par rapport à ça, c'est lié. Hein. Mais par rapport au Covid, faut-il continuer à développer l'extension de la mondialisation, ouais. ou faudrait-il revenir vers un patriotisme et une souveraineté
économique,
économique. Ah bah ça, c'est le grand sociale. Sujet du moment.
Oui, ça, c'est vrai. C'est l'un des grands sujets. Vous avez raison de le poser. On l'évoque beaucoup sur Sud Radio.
Je pense que cette pandémie, elle nous a quand même servi de leçon, au sens où il faudrait, de mon point de vue, revenir à un patriotisme et à du local, quoi.
Oui, ah ouais, c'est ça, de la souveraineté, en tout cas, c'est vrai. Évidemment. Souveraineté économique dans certains secteurs. Après, on ne peut pas faire tout nous-mêmes, donc, mais il faut
tout
être...
Tout à fait, mais quand même, nous sommes un pays puissant, nous avons une bonne philosophie, nous avons des moyens, je pense que nous pouvons développer certaines choses pour éviter ces
catastrophes.
C'est vrai. Alors, l'industrie et l'artisanat, c'est ce qui attire aussi souvent les touristes. Hein, ouais, pour venir revenir en France.
Bien sûr, les PME, les TPE, tout ça. Moi, je pense que ça peut développer tout ça.
C'est vrai. Merci Didier de Martigues. Bon week-end aussi à vous. Dans un instant, justement, est-ce que c'était mieux aussi avant? Ça, c'est ce que dit et ce que développe Patrick Buisson, qui sera avec nous tout à l'heure à 9h15. La fin d'un monde, vous pourrez dialoguer directement avec lui. Beaucoup de questions. Il fustige les années 60-70. On a beaucoup de questions à lui poser quand même.
Il est pour le retour du sacré dans la vie des gens. Et on en parlera avec lui. C'est le grand matin Sud Radio. Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. À tout de suite.
Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h08, merci d'être avec nous dans quelques instants. Patrick Buisson sera avec nous pour ce livre, La fin d'un monde. Est-ce que c'était mieux avant? Eh bien, vos appels 0826 300 300. On vous attend au standard. En attendant, c'est la chaîne France 4 qui échappe à la disparition, transformée en chaîne ludo-éducative. On en parle avec Jean-Raymond Hugonnet. Bonjour, vous êtes sénateur de l'Essonne, apparenté LR, rapporteur du projet de loi sur les œuvres culturelles et l'ère numérique. Bienvenue.
Oui, bienvenue sur Sud Radio, parce que, alors, on précise les choses avec d'autres sénateurs, hein, vous vous êtes battu pour cette sauvegarde de France 4, parce que vous vous êtes aperçu, et notamment pendant le confinement, qu'elle avait un rôle à jouer sur l'éducation, hein. C'est ça, Jean-Raymond Hugonnet ?
Absolument, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Il faut d'abord rappeler, quand même, dans la chronologie des choses, qu'au moment où nous examinons, en février, ce qu'on appelle les contrats d'objectifs et de moyens de l'audiovisuel public français, l'État, la ministre, présente la suppression de France 4 au 31 août et nous donnons un avis défavorable sur ces coms. Et là, maintenant, on nous propose, alors vous me direz, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais oui, le gouvernement nous a accepté le fait que, et nous l'avons introduit dans la loi, le fait que nous gardions France 4 et le soir que nous basculions sur Culture Box. Ça semble une bonne idée puisque ça a été repris et même par le président de la République qui s'est accaparé un petit peu cette ce maintien de France
4. Oui, c'est lui qui a donné le feu vert, quoi, après.
Bah, il a donné le feu vert, c'est-à-dire qu'il a bien été obligé de se rendre à l'évidence que ce que nous proposions était plutôt sensé. Et voilà, France 4 et Culture Box vont être sur la même chaîne. Et je pense que c'est un des enseignements tirés du Covid, montrant que cette chaîne a été éminemment utile pour les jeunes et pour tout l'aspect pédagogique.
Oui, c'est ça. Jean-Raymond Huguenet, est-ce que ça marche et est-ce que vous vous êtes inspiré d'exemples à l'étranger, par exemple, pour des chaînes éducatives comme ça, du service public ?
Alors, bien sûr, il faut regarder ce qu'il y a à l'étranger, mais enfin, ici, on est en France et je pense qu'on n'a pas à rougir de notre audiovisuel, loin de là. Ce qui est certain, c'est que c'est au moment précis où la BBC, par exemple, a recréé avec BBC 3, pour les jeunes, quelque chose. Donc, c'est vraiment dans le courant de ce qui, aujourd'hui, a cours dans l'audiovisuel.
Oui. Et qui répond en fait à une demande aussi du monde de l'éducation, des jeunes ou pas, Jean-Raymond Huguenet?
Bien sûr. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, que nous auditionnons assez souvent, que ce soit dans le cadre de projets de loi de finances ou autre, au Sénat, avait dit de mémoire, peut-être en novembre-décembre 2020, que ça avait été et c'était très utile et la pandémie, heureusement ou malheureusement, je voulais choisir, mais à montrer qu'effectivement, en termes de pédagogie et d'instruction, une chaîne comme celle-ci était particulièrement utile.
Oui. Alors, ça va se concrétiser quand là, donc, elle va rester et ensuite, tout va se mettre en ordre de marche, si je puis dire, pour la rentrée ou dans les mois à venir?
Ah oui, c'est maintenant la décision. Alors, il va y avoir la première lecture à l'Assemblée nationale, bien évidemment, mais je ne vois pas l'Assemblée nationale aller contre ce que nous avons introduit au Sénat, je le répète. Donc voilà, les choses sont maintenant enclenchées, on va pouvoir être certain que l'affaire sera pérenne après le 31 août, puisque c'était la date prévue dans les com pour la fermeture de France 4.
Est-ce qu'il y a des objectifs d'audience sur une telle chaîne après, Jean-Raymond Huguenet, vous qui êtes spécialiste des questions audiovisuelle?
Alors, les objectifs d'audience, bien entendu, c'est important. Je ne vais pas vous dire qu'on ne regarde pas ça, mais je pense que pour l'audiovisuel public, avant même de parler d'audience, on doit parler de contenu. La nécessité d'un contenu pédagogique de qualité, certifié, sécurisé, est une assurance pour tous les parents, pour tous les enfants, au moment où on a tellement besoin de repères dans cette société qui marche sur la tête. Je pense que l'occasion est inespérée. Alors, bien entendu, les objectifs d'audience sont importants. Maintenant, on va voir. On a montré, enfin, on l'a vu, en tout cas, pendant la pandémie, qu'il y avait de très belles audiences. Je pense que c'est amené aussi à perdurer parce que les programmes vont être particulièrement utile et intéressant.
Oui. Merci beaucoup Jean-Raymond Huguenet, donc sénateur de l'Essonne, rapporteur du projet de loi sur les œuvres culturelles et à l'ère numérique, et donc vous avez travaillé au maintien de France 4 avec l'éducation en fait dans la journée et puis le soir un programme beaucoup plus culturel.
Restez avec
Merci
nous.
À vous, bonne journée.
Merci, bonne journée, et on va vous offrir un cadeau ce matin. Au 0826 300 300, deux nuits en hôtel Baladin, offert par les hôtels Baladin et Sud Radio. Et c'est Cynthia qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Cynthia.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Patrick, merci.
Bravo, vous avez remporté ce joli cadeau. Vous allez pouvoir partir vous faire un bon petit week-end, Cynthia.
Ah oui, je compte bien en profiter.
Et vous allez voir que vous allez être choyé, dorloté, petit déjeuner, tout va bien, les hôtels sont canons, bonne ambiance, très conviviale. Vous allez partir avec qui, vous le savez déjà?
Ah oui, bien sûr, avec mon chéri.
Ah bah oui.
Ouais, il le sait
avec
ou pas?
Avec mon chéri, pardon?
Il le sait déjà ou vous
allez... Ah non, pas du tout,
ah.
Pas du tout.
Est-ce qu'il écoute? Il n'écoute pas la radio là, parce qu'il pourrait l'apprendre directement.
Là, il a fait la nuit. Là, il a fait la nuit. Donc,
il dort. Vous faites quoi dans la vie, Cynthia?
Alors, moi, je suis en formation en ressources humaines.
Très bien. En tout cas, vous écoutez beaucoup, souvent Sud Radio.
Tout à fait. Tous les matins, sur mon trajet, je suis à l'écoute.
Eh ben, c'est gentil.
Qu'est-ce
merci.
Que vous est-ce que vous aimez quelque chose ou est-ce que vous avez des reproches à nous faire?
Ah oui,
dites nous.
Moi, j'aime Monsieur Fiver. C'est Franck.
Cédric Cizère. Je ne savais pas si vous n'avez pas entendu Bilger ou Cizère.
Oui, alors je me disais Bilger, Cizère, on peut peut-être faire un mix. Parfois, oui. C'est vrai, vous avez raison que Cédric Cizère fait des petites imitations de Philippe Bilger.
Exactement, c'est vrai.
Mais il est excellent.
Il est très drôle. Là, il trépigne parce qu'il y avait tellement de choses dans l'actu. Il se dit vivement lundi qu'on revienne. Merci beaucoup. En tout cas, Cynthia, de nous avoir appelé. On vous fait un gros bisou.
Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
Allez, vous également.
Merci.
Et à très bientôt. Dans un instant, on va se demander si c'était mieux avant. Patrick Buisson sera avec nous. La fin d'un monde aux éditions Albin Michel. On vous attend 0826.
C'est une œuvre monumentale. 500 pages. Je me demande s'il n'y aura pas une suite déjà en préparation. Parce que là, on s'arrête sur, vous le verrez, sur un focus sur une quinzaine d'années. Et la suite, quoi. On va voir ça dans un instant.
Il sera avec nous. 0826 300 300. Tout de suite.